RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Saints.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Donald Trump poste une photo de lui en Jésus-Christ avant de finalement la retirer. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Antoine?
On ne s'en fout pas.
Oui, le président américain a vivement critiqué le pape Léon XIV hier sur son réseau social. Le pape qui s'est exprimé contre la guerre en Iran. Et sur cette image générée par intelligence artificielle, Donald Trump apparaît comme l'incarnation du Christ. Il est drapé d'une toge rouge et blanche avec un halo de lumière dans les mains. Il pose sa paume sur le front d'un homme alité, entouré de personnes qui le regardent. Avec autour évidemment les symboles patriotiques américains, hein, la bannière étoilée, un avion de combat ou encore la statue de la liberté. Alors jugé blasphématoire et antéchrist, hein, carrément, Donald Trump a finalement retiré cette photo face à l'indignation de la droite religieuse. Il explique en fait que l'image était censée le représenter en médecin. Bon bah alors là...
En lien avec la Croix-Rouge, c'est ce qu'il écrit.
C'est un flop. Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Oh là là, ah, il est en roue libre. Ah, moi, franchement, mais moi, ça me fait rire. Alors, qu'est-ce que je vous dise? Parce que par ailleurs, je pense qu'il a une politique dans certains domaines qui est tout à fait rationnelle. Donc moi, je ne crois pas qu'il soit complètement irrationnel. Mais je pense que au niveau de l'image et de l'utilisation des réseaux sociaux, qui sont quand même le déversoir de la débilité générale, eh ben, je pense qu'il se met à la page de la débilité générale et donc il fait n'importe quoi.
Oui, mais le pape est pas débile, enfin.
Alors le pape n'est peut-être pas débile, mais le pape est un homme politique par contre.
Ah bon?
Donc oui, je suis désolée. D'abord, premièrement, le pape est un chef d'État. Deuxièmement, le pape s'exprime sur des questions éminemment politiques et a des points de vue politiques, fait de la diplomatie aussi. Donc par
quelle est son influence politique?
Peu importe, mais par contre, le fait qu'on puisse critiquer les positionnements politiques du pape, ça je vois pas en quoi c'est dérangeant. Par contre là, antéchrist, mais non, mais Trump c'est un clown, c'est clownesque,
oui,
bah,
c'est,
voilà.
Oui, bah, c'est le problème. Ouais, c'est un gamin.
Mais non, par ailleurs, il est pas entouré de clowns. Croyez-moi qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Bah oui, Marco Rubio et Tidy Venn, c'est pas des clowns.
Ils sont pas d'accord entre eux. Parce qu'il a quand même une base, notamment les chrétiens évangéliques et même la base chrétienne qui est extrêmement choquée.
C'est pour ça qu'il a retiré son tweet, d'ailleurs.
Bah oui, il a retiré. Là, il a fait marche arrière. Et comme c'est quelqu'un qui est très orgueilleux, qui ne reconnaît jamais lorsqu'il fait mal une chose, parce qu'il a été formé comme ça, il nous prend en plus pour des cons en disant qu'il incarne peut-être Dr House en rouge, je ne sais pas quoi.
C'est Hippocrate.
Mais là, il a été très con. Et moi, en tant que chrétien, je n'aime pas le blasphème. Bon, je vais pas être choqué, ça va pas m'empêcher de dormir, mais il a fait une faute politique qui risque de lui coûter.
Il se prend pour le Christ.
T'aimes pas qu'on rigole avec les religions?
J'aime pas. Moi, je respecte le droit, même Charlie Hebdo, je respecte. Moi, je suis pour que Charlie Hebdo continue, mais j'ai horreur que l'on insulte la religion chrétienne.
Ah,
ça, c'est sûr.
Le droit.
Mais on a le droit, mais je ne vais pas, ça va pas m'empêcher de dormir.
Ça, c'est venant d'un président, c'est encore plus choquant.
Ah oui, bah il est con.
Je suis parti sur l'électorat.
Je lisais il y a quelques jours un article qui est passé. Je suis désolé, je me souviens plus de l'auteur. Qui expliquait que, en fait, on essaye d'analyser Trump avec notre regard hyper rationnel, d'Européens qui réfléchissent la politique, qui la pensent. Et en fait, Trump fait tout autre chose.
Donc ça veut dire
Trump,
qu'il est rationnel.
Il sature l'image, le son, il exagère, il gueule à l'américaine. Et en fait, c'est pour ça qu'on comprend pas. Mais ça lui a permis d'être réélu. Il va peut-être un poil trop loin. Là, je pense qu'il a poussé sa méthode un poil trop loin. Mais je suis pas sûr que ça lui coûte tant que ça. Ce sera oublié dans 48 heures.
Mais bien sûr.
On est dans cette époque-là. Exactement. Et il aura hurlé un autre truc ou publié un autre truc qui fera halluciner tout le monde pour faire oublier ça. Donc, si on essayait de plus se faire avoir sur la forme, qui est uniquement de la forme Trump, pour essayer de comprendre vraiment les enjeux sous-jacent de la politique trumpienne, on serait peut-être un peu meilleur dans l'Union européenne.
Bravo, là, l'ancien directeur de la CIA dit qu'il est dérangé. Hein. Mais aux États-Unis aussi, ça fait des remous.
Moi, je ne crois pas du tout qu'il soit dérangé. Moi, je pense qu'il a une ligne politique et que, par contre, c'est exactement ce que dit Antoine, il sature avec le grand n'importe quoi général. Excusez-moi, je crois que dans le monde, il y en a d'autres des clowns. Et le pire, c'est les clowns qui se prennent au sérieux. Et je crois que nous, on en a
en France.
Et qui sont aussi un peu
sur Donald Trump, ce qui commence à énerver même son entourage, il y a des élections qui se profilent.
Tous les présidents les perdent, les élections interminables.
Peut-être, mais après tu peux essayer de limiter la défaite et de rester sur ta base. Or là, si tu vas à force de faire un peu n'importe quoi, notamment, tu as raison, sur les réseaux sociaux, etc., les clowneries, disent ouais, ça commence à le fatiguer, si ça commence à fatiguer.
Oui, mais c'est pas sur ça qu'il perdra les élections. Il perdra les élections sur le chômage, l'Iran. Le pouvoir d'achat des Américains,
bien sûr. Le prix du carburant,
la crise du carburant. Je pense que ça a plus d'impact. L'action-service.
C'est un tout. Ça s'inscrit dans un tout là aujourd'hui qui agace ses proches.
TGG, l'ex-PDG de Lafarge, condamné à 6 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Le cimentier français est reconnu coupable de financement du terrorisme pour avoir payé des pots de vin à l'État islamique entre 2013 et 2014. On s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on ne s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Ce sont 8 anciens responsables au total qui ont été reconnus coupables hier par le tribunal de Paris de financement de terrorisme, donc pour avoir payé des groupes djihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre en Syrie.
Tu as dit, ils ont payé des groupes djihadistes. Et c'est là, pardon, où c'est toute la difficulté. C'est le cœur de l'affaire. Quand on lit financement du terrorisme en Syrie, on a l'impression que les mecs en costume de la cimenterie, ils sont arrivés devant des grands barbus avec des turbans, amener des mallettes en disant « Voilà, hein, ça va bien se passer ». C'est pas ça qui s'est passé. La justice retient le financement du terrorisme parce qu'ils ont payé à des checkpoints pour faire arriver le camion à la cimenterie, parce qu'ils ont eu un accord commercial pour acheter des matières premières avec une société qui était proche potentiellement du mouvement terroriste, etc. C'est une succession de petites choses qui amènent la justice à dire « Vous deviez le savoir, vous avez financé indirectement le terrorisme ». Alors, évidemment, moi, vous savez que je suis particulièrement opposé au terrorisme islamique. Je pense qu'ils sont allés trop loin, qu'ils devaient comprendre que l'État français aurait dû leur dire « Arrêtez, là, vous financez trop de choses ». Mais la façon dont on le dit, financement du terrorisme, on a l'impression vraiment que les mecs ont filé des mallettes au barbu.
Parce que quand même, prison ferme et mandat de dépôt. C'est-à-dire que le dirigeant est parti directement au
retour. Il y a deux choses. Je voudrais poser une question.
Ils ont fait appel.
Est-ce que aujourd'hui, la règle de l'exécution immédiate devient la règle? Est-ce que c'est vraiment la règle? Parce que maintenant, si avant même de faire appel, on met les gens en détention, y compris des gens qui ont dans les 70 ans, 80 ans,
surtout
etc., qui ne sont pas prêts de s'enfuir, on n'a pas affaire à la DZ mafia ou à je ne sais qui. Moi, je commence à me poser des questions aussi sur le point de vue aujourd'hui de certains juges qui vont considérer que l'incarcération, par ailleurs, la justice, dans le prononcé du jugement a duré 4 heures. C'est-à-dire qu'ils ont poireauté quasiment 3h30 avant d'entendre leur sanction. Donc ça s'appelle le supplice chinois. Bon, c'est très bien, la justice a choisi de passer 4 heures pour faire un prononcé. Dans ce prononcé, elle dit « faux débat sur un point qui me semble être un point essentiel ». Que savait l'exécutif à l'époque? La DGSE, ça a été prouvé, la DGSE connaissait les activités de Lafarge et avait même demandé à Lafarge de continuer parce que Lafarge, dans une certaine mesure, aidait la DGSE à avoir du renseignement. Ça veut dire que l'exécutif de l'époque, 2013-2014, était au courant des activités de Lafarge. J'ai pas dit complice, je dis simplement que Lafarge travaillait. Ils avaient investi 680 millions dans cette usine. Je pense que eux, ils l'avaient en travers de la gorge. Ils voulaient pas renoncer au profit qu'ils pouvaient en tirer, ce qui est tout à fait inacceptable parce qu'il y avait l'État islamique. Mais l'État, l'exécutif, était au courant de ce que faisait Lafarge et ils sont pas venus le dire au tribunal. Et le tribunal n'a pas considéré que c'était un facteur qui pouvait être un facteur amenuisant les peines. C'est quand même bizarre tout ça, quand même.
Tu m'enlèves les mots de la bouche et je pense qu'il y a une hypocrisie parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter cette réalité diplomatique que l'on peut condamner, mais elle existe. Des chefs d'entreprise couverts par les exécutifs, des présidents, discutent, traitent avec des organisations pas très catholiques, entre guillemets, pour les intérêts français, comme ça se fait pour tous les pays du monde. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas financé un groupe terroriste pour aller commettre un attentat. Donc on sait très bien qu'on discute avec des personnes peu fréquentables pour les intérêts de son pays. C'est ça la politique. Donc si on n'est pas capable de le réaliser, dans ce cas, faut tout renverser.
Faut mettre
beaucoup de gens en prison, à mon avis.
J'aimerais qu'on sache quelle a été la réalité de la monnaie d'échange pour faire revenir nos deux otages d'Iran en ce moment. On les connaît, hein. Il y a eu des monnaies d'échange. Il y a eu le retrait d'une plainte à la Cour pénale internationale. Il y a eu le vote à l'ONU pour faire de l'Iran un des membres coordonnateurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La France a voté pour. Donc moi, j'aimerais qu'on nous explique, puisqu'on donne la leçon à Lafarge. Aujourd'hui, l'exécutif, qu'est-ce qu'il a donné à la République islamique d'Iran pour qu'on ramène nos deux otages? J'aimerais bien qu'on le sache parce que on a dû bien se mettre comme des carpettes par terre face au mollah iranien. Et ça, c'est vraiment la honte de la France. Mmh. Excusez-moi. Et je suis très heureuse qu'ils soient rentrés. Mais ils étaient à l'abri à l'ambassade de Téhéran, à l'ambassade de France à Téhéran. Je suis très heureuse qu'ils soient rentrés.
Ils étaient à l'abri.
Je suis très heureuse qu'ils soient rentrés, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on a fait, hein, parce qu'on a quand même eu un bateau français qui a réussi à passer le détroit d'Ormuz, etc., etc. Bref, on s'est bien encore mis par terre pour eux. Hein.